Bonjour et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui fait des burns sur le parking du Lidl à la sortie du ciné.
Ou sinon c'est le parking du multiplex. Mais
le multiplex à Dax, c'était le parking du Lidl, c'est pour ça. Vraiment, littéralement. Ou peut-être le Leader Price, je confonds peut-être un peu les deux.
Salut Thierry.
Salut Thomas.
Ah, je suis reposé là, il y avait ce film, la Midsommar, qui m'avait bien lessivé. Cette semaine, je reviens pour des films plus de vacances, plus estivaux réellement. Hein, n'est-ce pas Thierry?
Ah bah oui, c'est sûr que là, forcément, ça va pas être la même prise de tête, en toute logique.
Voilà, cette semaine, on va voir Fast and Furious, Hobbs and Shaw. C'est quoi cette mamie?
Never Grow Old.
Des bagnoles de la comédie française du western, on va vraiment se régaler. Je te propose tout de suite, Thierry, de démarrer sur les chapeaux de roue. Tu fais super bien le moteur.
T'as vu ça?
On va voir un film de fantasme. Si vous êtes sur les routes d'été en plein bouchon, on va aller à grande vitesse. On va avoir des gros moteurs, on va avoir des gros biscottos, des hommes chauves et musclés. Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Pour ce spin-off de Fast and Furious, il nous fallait une équipe de choc. C'est pour ça que nous avons appelé le viril, le musclé, Karl. Salut Karl.
Salut Thomas.
Tu as sorti ta plus belle voiture.
Je n'ai pas le permis et tu le sais très bien. Je suis parisien.
Tu étais donc l'homme de la situation.
Tu vois, moi c'est pas les bouchons, moi c'est le métro qui démarre pas.
Hobbs and Shaw avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba et Vanessa Kirby. Un film de David Leitch qui avait signé Deadpool 2.
Oh merde.
Et qui... Atomic Blonde aussi.
Oh, oh merde.
Et qui a...
Grand choix.
Voilà. Qui a produit et qui aurait co-réalisé John Wick, même s'il n'est pas crédité.
Bon, c'est définitif, il faut que je me renseigne sur les films avant de venir. Pour ne pas venir.
Messieurs, qu'attendez-vous de ce film?
Visiblement, il y a un petit tollé autour de Fast and Furious en mode « Ouais, vous quittez la famille pour faire un spin-off », alors du coup, The Rock et Vin Diesel se font la gueule, là, les deux tenants de la licence. Bon, nous, on n'est pas là pour entrer dans ce débat. Moi, le seul truc qui me fait légèrement tiquer, c'est limite même le Hobbs and Shaw, en fait. Pas parce que ça me déplaît de voir ces deux personnages, qui, dans les derniers Fast and Furious, c'est devenu fun depuis qu'il y a The Rock et c'est devenu sympa depuis qu'il y a eu James Wan quand on a fait un et qu'on a eu la preuve que ça pouvait être cool. Shaw, c'est un méchant, voilà, Statham, c'est un mec marrant, je veux dire, il joue tellement mal que c'est rigolo, et on l'aime bien parce qu'au moins il se castagne, je veux dire, on va dire ce qui est, on attend que ça de Jason Statham, hein. Je veux dire. Mais en fait, le seul truc moi qui me dérange légèrement, c'est que Shaw, c'était l'énorme antagoniste, c'était une famille, c'était des vrais méchants, et tout à coup, ils se sont dit, ah, les gens aiment bien ce personnage-là, ils aiment bien le personnage de Luke Hobbs qui est joué par The Rock, donc ça va devenir des sidekicks, alors qu'ils sont ennemis. Donc ça va être juste des sidekicks en mode on va faire une mission ensemble en s'envoyant des fions. Et ça me pose un léger souci. Si c'est censé être l'antagoniste de toute cette licence, enfin de toute la fin de la licence, c'est dommage d'en faire un héros tout à coup sous prétexte que les fans aiment bien ce perso.
Je crois qu'ils deviennent potes dans les derniers Fast and Furious, ils bossent avec eux, ils sont potes hein, je crois. Non. Dans celui avec Charlize Theron en méchante.
Ils s'entraident à un moment, mais c'est pas sans vraiment être potes quoi.
Ben un peu quoi, ils bossent ensemble quoi, oui, mais là de ce que j'ai compris du scénar, ils sont pas potes mais ils doivent bosser ensemble, tu sais, c'est comme les buddy movies quoi, au début ils n'ont rien en commun puis après ils deviennent les meilleurs amis du monde.
Ouais mais là c'est des gros ennemis quand même parce qu'il y en a un c'est censé être un flic qui va se diriger légèrement, enfin, qui va laisser passer des brigands on va dire, mais qui reste flic, et un gars qui est vraiment un criminel notoire. C'est là d'être un putain de blockbuster qui te promet juste de l'action, donc carrément, c'est juste ce petit postulat là qui me fait tiquer un peu.
Bah, moi, c'est depuis le 5-6 que j'aime plutôt bien les Fast and Furious parce que c'est les premiers qui sont conscients de ce qu'ils sont. Ils assument, c'est des films bourrins, débiles, à regarder l'été, limite avec sa piña colada à la main. Mais là, le problème que j'ai avec Calvin et Hobbs, c'est que y a pas, je sens pas vraiment de hype autour des deux persos. C'est pas les persos les plus intéressants. Oui, The Rock, il est marrant, mais parce que The Rock est marrant. Je connais pas le nom de son perso, je l'appelle The Rock. Jason Statham, il faut taper sur YouTube Jason Statham Diving et vous allez voir à l'époque où il était plongeur athlétique, faire un saut 3 mètres, il avait des cheveux. C'est incroyable. Voilà, c'est à peu près tout ce que m'inspire ce Fast and Furious. Jason Statham avec des cheveux qui fait du plongeon et Calvin et Hobbs.
Non, moi je veux y aller pour Dwayne Johnson. Hein. Papa du travail, il a le bras dans le plâtre, il contracte un peu, bam, il fait péter le plâtre, il va bosser, il sort et... Et après, il va castagner des méchants, il n'y a pas de souci, quoi.
Mais tu vois, la force de ceux d'avant, c'était que, en sachant ce qu'ils étaient, ils savaient parfaitement remplir les attentes. Par exemple, dans le 7, ils savent parfaitement que... Moi, bon, je suis pas fan de voiture, mais je vais voir un Fast and Furious, j'ai envie de voir des trucs de dingue avec la voiture, limite des trucs irréalistes. Et là, on est, je sais plus, à Dubaï ou je sais plus où, et ils ont une caisse qui vole d'un gratte-ciel à l'autre, en passant par les fenêtres. Et en soi, c'est ça qu'on donne, ce pourquoi t'es venu. Mais là, comme... Enfin, ce que t'attendais. Mais là, bah, je sais pas vraiment quoi attendre, ouais, comme on disait, c'est... C'est pas la famille, c'est pas des persos super définis. Bah, la preuve, là, le petit débat que vous venez d'avoir, on n'est même pas sûr de la relation des deux persos principaux alors que c'est une licence qui en est à son 10e film.
Il n'y a pas la famille, on a vu les bandes annonces, ça s'annonce très très débile. On aura The Rock qui va donc dans sa famille maori et donc on va avoir un combat sur la plage entre des maoris torse nu à l'arme blanche, enfin à la matraque quoi, ou à la hache traditionnelle. Contre des soldats avec des fusils d'assaut. On aura un élément de comparaison avec Wonder Woman, on l'a dit. Ça sera les points sur lesquels nous porterons notre attention.
Allez, pendant qu'elle s'est envolée et qu'elle va à pleine vitesse, faut qu'on la rattrape avec une bagnole.
Get in the car. We're all going. Not you.
I said,
we're all going.
Buckle up.
You might want to just... Is he doing what I think he's doing?
Yep.
I was on survival.
64.
Cowboy up.
Attention, spoiler. Alors je parle du film, le film spoil allègrement, donc on n'aura pas peur de spoiler ce film, parce qu'il n'y a pas grand chose à spoiler déjà de une, et que de le film se permet de spoiler d'autres programmes, d'autres licences. On a eu du muscle, on a eu de la mécanique, on a eu de la basto, on a eu la famille.
Tu te rappelles quand c'était une licence de course de bagnole ? Là c'est un complot mondial avec un virus et une entité, c'est un peu comme dans l'émission Impossible, une sorte de contre-espionnage maléfique qui n'obéit à personne, qui va faire chier Calvin et Hobbes, enfin Hobbes et Shaw, qui vont s'allier alors qu'ils s'aiment pas pour sauver le monde. Donc ça va se partager entre des scènes de baston qui sont en qualité variable, il y en a qui sont très fun, surtout que c'est une dernière licence où quand quelqu'un met un coup, on voit la personne se prendre le coup, on voit vraiment, quand tu pètes un bras, tu vois le mec en train de se faire retourner le bras à la caméra. Ça fait plaisir. Après, entre les deux, t'as aussi les séances de vannes de celui qui fera l'insulte la plus créative. Et après, il y a les moments où ils essayent d'avoir une histoire, et c'est là que tu te rends compte que tu t'en bats les cacahuètes. Hein.
C'est ça, c'est que, autant je me suis régalé sur les premières scènes d'action, il y a eu pas mal... J'allais dire de l'inventivité, non. Le coup des deux personnages différents où on a un montage séparé, où on voit chacun un plan de leur vie filmé de la même manière et on voit ils ont le même schéma de vie mais avec des éléments différents. Donc ça permet de voir les points communs, les différences de personnages, de faire de l'introduction. Ça c'est pas très original mais plutôt bien exécuté. On a pas mal de bastons sympas. C'était très lisible au début du film et puis plus ça avance et plus c'est fouillis. Plus c'est truqué aussi,
oui.
Parce qu'il y a énormément d'images de synthèse. Alors, bon, quand c'est Idriss Elba qui est censé être un surhomme surboosté et refait de partout, pourquoi pas. Mais il y a des moments, on sort un peu de la scène d'action. Et puis même à la fin, la fameuse baston là, justement où on est avec des Maoris qui se battent, des Samoans là, cette fois-ci, très exactement des Samoans. Qui se battent en main nue, enfin non pas en main nue, mais avec des bâtons et des masses et des armes traditionnelles, ben en fait on n'y voit que dalle. C'est sûr que t'es à l'arrache, c'est même flouté, même l'image elle-même elle est trouble hein, et on se demande.
C'est Shaky Cam à mort.
C'est Shaky Cam à mort, on se demande si c'est le même chef-op tout au long du film, tellement l'étalonnage de la lumière, l'étalonnage de l'image n'est pas le même tout au long du film, j'ai l'impression.
Il y a clairement une coupure parce que c'est un combat qui est censé se passer juste avant le lever du soleil. Et d'un plan sur l'autre, c'est bon, il est midi.
Ouais.
Donc à mon avis, il y a eu une coupure quelque part. Quand ils ont tourné la scène, ils ont pris une autre équipe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une coupure quelque part.
Mais arrêtez de dire des choses comme ça. Tout est étiré, étiré, étiré. C'est 30... enfin, ce film a 35 minutes de trop, et c'est son gros problème. Et surtout dans les scènes de dialogue, dès l'instant qu'ils font une blague, mais ils répètent la blague en boucle. Alors ça s'envoie des fions, c'est vraiment de ah ben moi j'ai une grosse tête, ah ben toi t'as une grosse tête, ah ben toi t'as une tête de pine, mais toi t'as une tête de gland. Et c'est trop, beaucoup trop long.
Et un problème avec la taille de leur sexe aussi.
En effet, c'est pas un film Fast and Furious, fallait pas le prendre comme tel, et c'est même complètement con que ça s'appelle Fast and Furious, parce que tu pourrais faire un film, un buddy movie slash espionnage à l'arme fatale avec ces deux mecs-là, tu t'attaches vite à eux, ça passe, on s'en fout limite de voir sa mère en prison qui vient d'un autre épisode juste pour raccorder les trucs, on pourrait leur créer un background ridicule entre lui et sa fille et lui et sa sœur, que ce serait le même film, ça servait à rien de le caler là-dedans, quoi.
Et ah, ça fait une licence, c'est pas
oui,
mal.
Non, mais, ouais, mais faites un film d'action avec Statham et The Rock, visiblement ils ont kiffé leur truc, quoi, je veux dire, autant faire ça. Et faire un film à part, un film, voilà, slash espionnage à la Uncle, à la Agent très spéciaux, enfin c'est le même film. Mais ouais, vraiment, il confond Buddy Movie et Buddies Movie. Donc le côté, on fait pas un film de deux potes, on fait un film, on ramène aussi les copains. Enfin, donc il y a Ryan Reynolds qui se ramène parce que David Leitch a bossé avec lui sur Deadpool juste pour faire des blagues. Dans l'avion, il y a Kevin Hart qui se ramène juste parce que bah, c'est un pote de The Rock, quoi. Donc on ramène des copains juste pour lui faire la scène du quand vous avez besoin de moi, vous m'appelez. À la fin, ils l'appellent, ils ont un avion.
Et puis c'est gênant parce que donc il joue le... C'est qu'il est un Marshall, un Air Marshall. Donc...
Il joue le mec qui parle trop et qui a rien à raconter, il joue Kevin Hart.
C'est ça. Et du coup, ça devient très long et très gênant, quoi. Voilà.
Alors que t'as des atouts qui sont, bah voilà, qui sont là. Qu'en effet, on a un duo d'acteurs gros bras à qui on va pas demander coco. Cela dit, ils ont, dans les scènes de dialogue, mis à part le fait qu'elles sont trop longues, ils se démerdent bien les deux. Bah, Statham a un côté un peu ironique à l'anglaise qui passe plutôt bien, et The Rock a le côté ouais, je suis ton pote à la cool, mais un peu trop cool.
Ouais, parce qu'il a été catcheur, donc envoyer des fions à la tête de son adversaire, il l'a déjà fait, quoi.
Voilà.
C'est donc, son boulot, hein, au départ.
Donc, non, dans le matériau de base, on a ça, on a Idris Elba en face, il est badass, bon, bah ça va passer. On avait Vanessa Kirby, elle est ultra badass, ça va passer sans problème. Dire, on avait de quoi faire un film sans forcément avoir à faire un film aussi si long, qui se regarde autant et qui surtout essaye de cocher, enfin, il coche pas les cases, il les coche 40 fois chacune. Ils aiment bien les blagues, faisant plein, 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 plein. Il y a de l'action, faire plein, 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 plein d'action. Et pourtant, voilà, ça se tenait. Comme tu disais, les scènes d'action sont cool, elles sont ultra exagérées. Je pense que dès le début, tu te dis, ok, on emmerde le réalisme, on s'éclate.
Ah oui, la physique n'existe pas.
Voilà. Et là-dessus, on s'éclate. Mais moi, c'est vrai qu'à partir du moment où tu décroches, moi, tout le passage sur les îles Samoa, moi, j'en pouvais plus, en fait. C'était la scène d'action un peu de trop, parce qu'au final, ouais, bon, le film expédie ça comme une trajet Fuka, quoi.
Mais alors, le passage sur les îles Samoa, c'est peut-être le passage le plus Fast and Furious, j'ai envie de dire, mais il manquait que Vin Diesel, parce que c'est la famille. Il retourne dans sa famille. Alors, donc, du coup, ils arrivent. Et la famille, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle retape, elle customise des bagnoles. Et donc, c'est là qu'il y a la famille, qu'il y a le truc, qu'il y a le plan. Bon, il y a la maman, c'est-à-dire qu'il y a une maman, il y a une meuf pour je sais pas combien de mecs. Et il y a juste à la fin du film, on te met un plan avec trois filles, histoire de dire que non, quand même, c'est une communauté. On a aussi le petit plan Nitro, c'est-à-dire que, ou Turbo, c'est-à-dire que le mec il est actif sur Nitro, et donc du coup, on a le plan, on voit dans les tuyaux, ça s'active, hop, on rentre, on est à l'intérieur du moteur et on sent que, oh, ça y est, il y a un boost dans le moteur.
Alors après, il y avait un truc, on n'en a pas parlé tout à l'heure pendant la troupe, on s'était déjà fait la réflexion, on avait très très peur que tout soit disséminé dans la bande-annonce et que le film n'ait rien d'être proposé. C'est pas le cas. C'est un concentré de la bande-annonce plus, donc en soi, ça va, évidemment qu'on a que ça, que c'est concentré dans ces scènes-là, mais ça va, il y a quand même de quoi se régaler pendant, enfin, si on l'avait réduit, il y a de quoi se régaler tout du long, il y a toujours une scène d'action qui va reprendre, il y a toujours une petite vanne qui va passer, il y a un petit côté limite l'exagération dans la vanne, genre au bout d'un moment ça finit par passer, des fois tu rigoles pas et puis pof, allez, la phrase de plus, tu fais bon allez, là c'est drôle, d'accord. C'est peut-être un peu long, mais il n'y a jamais de moment où tu te dis putain, ah je me fais déjà chier, ça y est, le film va être lent, tu vois. À part peut-être vraiment les 10 dernières minutes de fin, le combat final, mais vraiment qui est expédié à la truelle, et surtout le côté, c'est ce que Carl disait, le film s'arrête, c'est vraiment, ils l'ont battu, ils regardent l'horizon, ils commencent à avancer, et générique. C'est vraiment en mode, allez, bon, c'est bon, on a terminé, quoi.
Attends, ils teasent la suite, d'abord, après. Je crois que c'est même pendant la discussion, ils commencent à lancer les crédits, après la scène où, The Rock ramène sa fille. Ça fait 25 ans qu'il n'a pas vu sa famille, alors ils expédient une histoire avec sa famille dont tout le monde se fout. On voit qu'il a 57 frères, il y en a un dont on connaît le nom, ils ont un petit deal. Ça fait 25 ans qu'ils sont brouillés, juste avant de se battre, ils font « Je t'aime frère, moi aussi frère, c'est bon, c'est réglé, on peut repartir ». Le truc émotionnel, bon, je sais pas si vous avez ressenti une émotion, moi je m'emmerdais un peu à ce moment-là, c'est que bah, il ramène sa fille qui n'avait jamais rencontré sa famille. Et donc t'as le moment un peu émotion, ils te mettent même la petite musique avec les violons pendant les crédits. Mais tu fais pas ça pendant les crédits. Tu termines le film là-dessus. Ou à la limite sur Ryan Reynolds qui spoil Game of Thrones parce qu'on t'emmerde.
Petit mot sur la place de la femme dans le film, parce qu'on a parlé testostérone.
C'est vraiment une impression que j'ai eue, parce que sur certaines scènes non, mais alors le... Bon, de toute façon, on a dit qu'on s'en branlait de spoiler. Il se passe un truc entre la sœur de Shaw et Hobbs. Moi, le passage du baiser et beaucoup de passages où il y avait discussion, j'y ai tellement pas cru que je me suis demandé si ça avait pas été rajouté. Mais vraiment rajouté à la truelle, en mode, il était absolument pas question que ça se passe comme ça. Et puis, il y a des producteurs qui ont fait, attends, ça peut pas être que la sœur de machin qui est badass et qui vole un virus et qui est une espionne. Faut que ce soit aussi l'intérêt amoureux d'un des persos, sinon, elle a rien à faire là, c'est une femme.
Et préférablement pas de son frère.
Voilà, c'est exactement ça. Mais tellement, mais c'est ça. Ouais. Et oui, parce que c'est vraiment, tu vois The Rock, tu vois l'armoire et puis t'as la Vanessa Kirby qui est complètement, qui est féline et tout, qui est toute fine. Et puis les deux, tu le vois, ils se regardent. Bon, ben, alors, dans les dialogues, tu sens que bon, c'est écrit que, oh là là, tu as eu papa sur ce dossier, l'espionne est séduisante. Oh là là, oui, elle est très séduisante, dis donc. C'est subtil à chaque fois.
Petit rappel de Mission Impossible Rogue Nation qui était enfin sorti de ce cliché où il présentait une espionne qui pouvait potentiellement lui plaire, mais dont il avait rien à foutre et qui, enfin, où il lui parle comme à une collègue et ça faisait du bien. Et là, ça aurait tellement pu être le cas. Ah bon, c'est dommage.
Et même le moment où ils s'embrassent, ça devient presque gênant, même pour eux, quoi, à l'écran.
Ouais, non, si, c'est pour ça, ça sent le truc ultra rajouté, quoi, cette espèce de pseudo-relation. Les plans, vraiment, il y a un plan où elle le chevauche dans une bagnole, où ils se regardent, et les deux plans font fake par rapport au même au fond, à l'arrière-plan et compagnie. Je me dis, ouais, vraiment, ça sent le truc rajouté, hein, enfin, tu sais, fait en reshoot. Après, je peux pas m'affirmer. Il y a Hélène Mirren, elle ne sert strictement à rien, mais c'est quand même mieux que dans Anna.
Alors, franchement, on aurait pu s'attendre à vraiment pire, mais. Alors, du coup, film popcorn, on peut y aller pour bouffer du popcorn, ouais, ou bah. Pas, ouais, je sais pas, où est-ce qu'il faut le fuir comme la peste, comme le virus qu'on a inoculé, la pauvre Vanessa Kirby.
Si vous avez envie d'aller le voir, c'est bon, vous passerez plutôt un bon moment. Si vous avez pas envie d'aller le voir, vous allez le détester.
On a eu de l'action, on va aller sur quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus tranquille, mais peut-être pas aussi tranquille pour nos goûts de cinéphiles. Hobbs & Shaw sont venus au bout d'une menace terroriste transhumaine et multinationale, mais il y a une menace contre laquelle ils ne peuvent rien. Les comédies françaises.
Ok, je me casse.
Parce qu'on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix.
Allez, c'est parti.
Bonjour, mamie.
Ah, m'appelle pas mamie, ça colle des rides. Première règle, avant 14h, tu comptes pas sur moi. Et après 17h, c'est pareil, c'est l'heure de l'apéro. Wow. Grand-mère, ça sert à faire tout ce qui est interdit par les parents.
Hey mon Dudu, comment ça se passe avec mamie?
Super, il s'éclate et m'appelle pas mamie.
Papa, il te fait...
Ouais, salut.
Viens sauver Gulliver parce que tu fais n'importe quoi. T'as très bien entendu, mamie. On débarque tout chez toi.
Ouais.
Ah, salut, mamie.
Ce soir, c'est toi qui vous fais le repas.
Tortionnaire. Qu'est-ce qu'on fait avec une aubergine? Ah, vous voulez une vraie grand-mère? 20h pour les petits, 21h pour les grands. Les vacances chez Mamie Aurore, c'est aussi les vacances de Mamie Aurore.
Allez, oui, mamie.
Je ne le demanderai qu'une seule fois. Qui va venir en boîte avec moi?
Ils sont pas majeurs, ces mômes. Mais il est tout petit, celui-là.
C'est mon père, qu'est-ce qu'il y a?
C'est les vacances d'été, c'est le soleil, c'est la Méditerranée, c'est la plage. C'est quoi cette mamie?
Enfin, c'était quoi ce film, surtout?
C'est quoi cette mamie de Gabriel Julien Laferrière avec un casting de méga folie? Chantal Latsou, Julie Gaillet, Thierry Neivik, Julie Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo, Philippe Catherine, Ariel Mallet. Quel roster, mon ami!
C'est sympa parce que c'est que des acteurs, tu sais, que t'as pas envie de voir ensemble et que t'as pas envie de voir séparément non plus. À la grande limite, moi j'avais eu quelques espoirs pour Lucien Jean-Baptiste il y a un moment. Et bon, bah, c'est plus le cas depuis longtemps. Quand on a eu le début du film, et que je vois, donc c'est. On voit tous les gamins, c'est hyper confus, on comprend absolument rien, ils nous mettent ça en place, ça ressemble à que dalle. Et là, il y a le seul narrateur, Gulliver, donc le petit gamin. Et du coup, ça a commencé à parler de famille recomposée. Lui, c'est mon cousin, lui, c'est mon frère. J'ai fait, oh putain, j'ai fait, oh, on dirait le pitch d'un film de merde avec Julie Gaillet. Et là, toi, tu me regardes, tu fais, mais il y a Julie Gaillet. Ah non. Et du coup ça me faisait penser à c'est quoi cette famille, mais j'avais zappé le nom. Et donc du coup c'est quand ils ont fait le lit, je fais ah putain c'est la suite de cette.
Donc c'est quoi cette mamie, vous l'aurez compris, c'est la suite de c'est quoi cette famille. Alors j'ai dit c'est réalisé par Gabriel Julien Laferrière. C'est le même réalisateur que c'est quoi cette famille, qui avait aussi réalisé SMS, grand film, ainsi que Neuilly sa mère et Neuilly sa mère sa mère. C'est quoi cette famille? Le topo vite fait, c'était des familles méga recomposées. Les enfants en ont marre d'être trimballés d'un foyer à l'autre. Du coup, ils décident de squatter un appart tous ensemble et d'imposer aux parents de venir les visiter chacun leur tour. Donc ça, c'est le topo de du premier. Ici, donc, c'est la suite. Hein, donc on a le gros appart, c'est les vacances. Hein, chacun part avec ses parents respectifs, sauf le petit malchanceux, le petit Gulliver. Alors bon, il n'a pas de chance déjà parce qu'il s'appelle Gulliver, bon ça, ok. Mais en plus parce que bon, ses parents se plantent dans l'emploi du temps. Et du coup, il est envoyé chez sa grand-mère, Chantal Latsou, qui est une grand-mère fêtarde, destroy, insouciante. Et donc, qui s'occupe très très mal de son petit-fils. Alors du coup, ça se passe mal. Et comme il flippe, il panique. Il appelle ses frères et sœurs à la rescousse qui vont tous se rappliquer dans la grande maison.
Tu vois venir les fautes de rythme dès l'instant que tu racontes le scénario. Donc chacun va partir faire ses vacances de son côté avec le petit qui est coincé chez la grand-mère et qui va les appeler à l'aide. Donc du coup, on va avoir au début des briefs de vie, ça va être un peu limite en mode chorale. Donc du coup, on va vivre l'aventure de chacun des enfants avec le fait que chacun des enfants s'emmerde aussi profondément, soit avec ses parents, soit ses vacances, Yannick qui est censé partir chez les scouts. Et en fait, donc le film redescend, et chaque fois que tu t'emmerdes, il essaye de rythmer en te mettant des plans sur Chantal Latsou qui gueule d'un truc et toutes ses répliques sont à base de « j'en ai rien à foutre ». C'est « ah bah les marmots, j'en ai rien à foutre, ah bah, la puberté, j'en ai rien à foutre, ah, mon stérilé, j'en ai rien à foutre, de toute façon j'ai eu deux gosses ». Voilà, c'est de ce niveau-là, là on a l'impression que je suis vu le gosse, c'est exactement de ce niveau-là. On est face à un film où les blagues sont principalement sur « mon fils est homosexuel ».
Là, il y avait deux blagues là-dessus, il le découvre et ça non. Se passe plutôt bien, quoi.
Bah, il le découvre, ça se passe plutôt bien. On fait le coup de la mère qui tombe dans les pommes, on fait le coup du la nana est amoureuse de lui. Ah mon dieu, il est gay. Enfin, je veux dire, bon, après, ça va, ça se passe bien, certes. Donc, ça te montre que c'est légèrement ouvert dans ce genre de famille du 16e.
Bah, il y a le choc parce que ça fait un choc quand tu le découvres, mais après, ça se passe bien. Et ils te sortent les trucs, et après, ils te sortent les phrases bateau du style ah, mais je serai la seule femme de sa vie.
Oui. Ah ouais, alors niveau écriture des dialogues, on va en parler peut-être, mais si tu veux, ça me fait penser, c'était exactement la même chose que ce qu'on avait dit avec Nous finirons ensemble, ces espèces de problèmes de bourgeois dont on n'a rien à foutre parce que c'est pas des problèmes, quoi. Et là, c'est encore pire. Je veux dire, à la grande limite, je considère même que les personnages de Canet ont des problèmes par rapport à cela. Enfin, je veux dire, il y a quand même toute la scène où les parents reviennent alors que les gamins ont juste été autonomes et sont partis ailleurs et sont là, on doit recadrer parce que c'est pas bien. Et ils savent même pas ce qui n'est pas bien en fait. Ils sont là en mode, ils sont pas d'accord les uns les autres. Alors, ils jouent toujours sur le côté, on a tous des personnalités différentes, c'est affreux. Mais c'est chiant. C'est insupportable. Et puis le film tient 1h38 là-dessus. Il se passe, enfin, je sais pas quoi, les personnages se retournent comme des crêpes. On a la mère qui est ultra psychorigide, enfin, qui est jouée par Claudia Tagbo.
Je trouve que Claudia Tagbo est un des rares points positifs de ce film.
Mais attends, elle se retourne comme une crêpe la nana, mais moi je suis.
Non, mais son personnage est très mal écrit. Son personnage est très mal écrit. Son personnage est très mal écrit, mais justement elle sauve le truc. Et quand elle est à l'écran, il se passe un truc. Ça m'a fait sourire. Les rares moments où j'ai apprécié à peu près, où j'ai ouvert les yeux pendant le film, c'est parce que Claudia Tagbo était là et que justement, elle tenait bien son rôle et malgré une direction d'acteur aux fraises, elle faisait le taf. J'acceptais d'aller voir ce film pour Chantal Latsou. Je sais que c'est pas un vrai argument parce qu'on avait fait ça l'an dernier.
On avait fait ça avec Comment tuer sa mère là, mais pourquoi on a fait ça quoi?
Qui était encore pire que film là, c'est quand même vous dire le niveau du truc. C'est vraiment là, c'était au ras des pâquerettes. Là, à part un casting et des noms sur l'affiche, y a pas grand chose quoi.
J'ai encore moins d'excuses que toi parce que moi, le premier film, je l'ai vu. J'avais trouvé absolument affreux. J'ai juste pas capté que c'était la suite parce que j'avais oublié son titre. C'est juste que quand j'ai revu le truc, j'ai fait « Ah, c'était ça !» Et ça s'appelait comment ?« Ah oui, d'accord, en effet. » Moi, j'ai vu Neuilly, sa mère l'année dernière. Hein. C'était affreux. Hein. Le mec, il nous pond une merde comme ça par an. C'est incroyable. Et surtout, on le finance. On le finance.
C'est ça le problème. Ce sont des téléfilms qui cartonnent. Parce que c'est quand même payé par TF1 et M6, ce truc-là. Et c'est fait pour passer à la télé, clairement. On met des noms à l'affiche, comme ça dans la bande-annonce, on dira un film avec Ariel Almalé, Claudia Tagbo, Philippe Catherine, Julie Depardieu, Julie Gayet, tout ce que tu veux. Donc on va mettre ça sur la bande-annonce, et puis voilà. Et puis c'est mal rythmé, mais on s'en fout parce qu'il y aura une pub au milieu qui va couper le rythme. Donc ça a été réfléchi pour ça, c'est le seul intérêt de ce film, c'est pour passer à la télé au milieu de l'été, ou un soir, un mardi soir où on se fait chier. C'est fait pour passer sur TF1 ou M6 ce film là et c'est très très plat. Enfin, je veux dire, c'est un truc pour que tu fasses ta vaisselle à côté ou que tu ranges la table. Je sais pas. Enfin, c'est pas fait pour être regardé activement, puis, quoi.
Tu regardes ton écran à chaque fois que du coup là-dessous fait des éruptions de chant vu qu'elle hurle tout le temps.
Chantal là-dessous, moi j'aime bien le personnage. Le problème, c'est que si on lui demande toujours la même chose et qu'on la dirige pas, elle sert à rien, quoi.
Le souci, c'est qu'après, de toute façon, c'est vrai que le film passe son temps à essayer de te réveiller. T'as les passages où ils vont en boîte de nuit où la musique est tellement forte qu'ils ont pas compris comment faire des dialogues. Donc, du coup, les dialogues sont totalement en sous-impression. On ne comprend jamais rien. À des moments, ils parlent tous ensemble pour créer la cacophonie, certes, mais ceux que t'es censé vraiment suivre, parce que c'est ceux qui font avancer le dialogue, tu les entends pas. Et du coup, à partir du moment où t'es là, tu fais « Attends, j'ai loupé des bribes de phrases. » Heureusement que c'est pas important et qu'on en a rien à foutre. Parce que sinon, dans les procédés... Après, ouais, t'as un montage qui est totalement aux fraises. Moi, t'as une passage dans la chambre avec les gamins. Chaque fois qu'un gamin parle, c'est un plan sur le gamin. Et alors, un plan qui vient de nulle part. Hein, c'est on le montre de dos. Puis, tiens, on va montrer celui qui est au bout de la fenêtre là-bas, mais on va le montrer par le côté droit. Donc, on respecte pas la règle de 5-3.
Ce que j'allais dire, c'est que les chants contre chants sont absolument pas respectés. Et les dialogues, on comprend rien. Ils puissent en couper brutalement. Il y a même pas de rythme en fait. Il finit sa phrase, tac, et on passe à la phrase suivante. Il y a pas de respiration. Il y a que dalle. Ah, au secours.
Ouais, mais tu vois, faut pas s'en vouloir. Il y a le pouvoir de la famille. À la fin, on se tient tous la main et on saute à l'eau, tu vois. C'est le beau message, alors, tant qu'on s'aime.
Voilà, ça, je voulais garder ça pour l'après générique, mais on le garde. Oui, alors, il y a un truc, justement, où il se jette d'une falaise pour sauter dans l'eau. Et moi, je vois une belle image à la fin, parce que, bon, les enfants le font, parce que, voilà, la grand-mère le fait, elle leur a montré. Mais à la fin, ce sont donc les acteurs adultes. Donc, c'est la scène post-générique, quoi, hein, si tu veux. Donc, tous ceux que j'ai cités, tous ceux qu'on a payés pour juste mettre leur nom sur l'affiche, qui s'aperçoivent que ce film sera sur leur fichier IMDb et du coup ils décident tous ensemble de se jeter, de faire un suicide collectif du haut de la falaise. Je trouve que c'est un beau symbole.
Il y a Philippe Catherine, hein, César du meilleur acteur l'année dernière. Donc oui, en effet, le casting en a mais rien.
Il est sous-exploité. Il est sous-exploité. Julie Depardieu, c'est pareil, ils sont complètement sous-exploités. La seule qui est exploitée à peu près, c'est Claudia Tagbo. On nous a menti. Le film d'horreur au soleil n'était pas Midsommar, mais c'était bien C'est quoi cette mamie. Échappons-nous.
We're happy here, aren't we?
I love you so much, more than anything else in the whole world.
Our town would be a holy town.
The paradise here on Earth.
100 Taker. In need of your services for a private funeral. Would that be of interest to you?
Who died?
Why is the Undertaker here?
He's here to bury you, Bill. Nice doing business with you, Patrick Tate.
Après les affrontements bourrins de Fast and Furious, après l'humour bourrin de C'est quoi cette mamie, on va se poser un instant avec ce western Never Grow Old de Ivan Cavana, avec Emile Hirsch, John Cusack et Deborah François. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont revolver chargé et ceux qui creusent. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer Never Grow Old, mon cher Thierry, n'est-ce pas?
Ah bah c'est sûr, surtout quand le personnage principal, donc du coup joué par Emile Hirsch, Patrick Tate, est un croque-mort, bon, en l'occurrence croque-mort et charpentier, mais vu la tournure que va prendre ce petit village paisible, on peut clairement dire qu'on va plutôt faire appel à ses talents de croque-mort.
Exactement, donc il vit paisiblement dans ce petit village avec sa femme Deborah François, un couple modèle, deux enfants, un troisième en route, tout va bien, c'est pépère, ils vont à la messe le dimanche, tout va bien, jusqu'à ce que John Cusack arrive.
C'est ça.
John Cusack et sa bande de hors-la-loi.
C'est un endroit paisible, mais quand même, malgré tout, pas sans tension. Parce qu'on est quand même dans une il y a un village où la loi n'est pas respectée, puisqu'il y a un révérend qui fait sa propre loi et qui a interdit le débit d'alcool. Donc malgré tout, on a quand même des villageois, enfin tous ceux qui ne vont pas forcément à la messe ou qui y vont par dépit, sont sous tension, sans cette espèce d'exutoire qu'est le saloon à cette époque-là. Ils y arrivent, enfin ils ont du mal à se lâcher, malheureusement mal, mais bon. Du coup, il y a des tensions, et quand, comme tu disais, John Cusack et sa bande de... Albert Butch, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. et sa bande de hors-la-loi...
Dutch Albert,
ouais, c'est ça. Arrivent, ils sont juste là à la base pour remplir un contrat.
Ils chassent une prime, tout simplement.
C'est des chasseurs de primes, ouais. Et quand ils demandent juste à où est-ce qu'on peut aller boire un coup, vu que... on a un peu de route, les mecs se rendent compte, voilà, que le débit d'alcool est interdit et ils flairent le bon filon en se disant bon bah en fait on peut s'installer ici et prendre un business, devenir proxénète et barman quoi.
Et c'est surtout quand on leur dit ouais mais il n'y a pas de débit d'alcool et il n'y a pas de prostituée derrière, et le mec et il dit mais pourquoi ah ben c'est le révérend, il a interdit. Ouais mais c'est pas le révérend qui fait la loi, c'est le shérif. Ouais mais le shérif il est nul. Ah ah, bonne info.
Le shérif est nul, y a moyen de réouvrir un truc où de toute façon les gens sont tellement pervertis qu'ils vont y aller. Forcément, t'as un bon filon hein, pour faire du business, quoi.
Et effectivement, business florissant, puisque dès l'ouverture, c'est blindé.
Dès l'ouverture, en plus, on réapprend l'ouverture limite. Enfin, dès le début du film, il y a la mort de quelqu'un à l'intérieur du saloon. Et on a le propriétaire du saloon, qui est un personnage extrêmement ambigu, qui vient chercher donc Patrick, le croque-mort, pour lui dire bah, « Viens, s'il te plaît, il y a un mort. » Et quand il rentre, ça va dedans, tout le monde est en train de faire la fête, un énorme cadavre au milieu avec une énorme traînée de sang, personne n'en a rien à foutre tellement ils ont envie de s'éclater, quoi. Jusqu'à ce que le shérif arrive et commence à gueuler en haut, qui c'est qui a fait ça, quoi.
Ouais, il y a un mort, là.
Il y a un mort, quoi. Et c'est vrai que tu te dis, tu sens quand même que c'est des gens, là, qui n'ont pas fait ça depuis longtemps, et que du coup, ils sont tellement absorbés par la fête et par le fait que ça leur manquait, qu'ils n'en ont rien à foutre qu'il y a un gars qui est totalement crevé au milieu, couvert de sang, quoi.
Moi, j'aurais pas dit que c'est qu'ils ont pas l'habitude. C'est juste que, c'est l'antre de la perversion et que du coup, si le mort fait partie du décor, à la limite. Moi, je m'attendais, en voyant la bande-annonce, en voyant les affiches, je m'attendais à un affrontement frontal, justement, à une confrontation entre Emile Hirsch et John Cusack. Et c'est pas vraiment ce qu'on a eu. On a une ambiance qui se pose petit à petit. C'est long à monter. C'est très long à monter, à s'installer. Mais on a une ambiance pesante, on a quelque chose de lourd, et on a un John Cusack et ses acolytes aussi, surtout le muet. J'ai pas retenu son nom, ça allait très vite, mais
on l'appelle que le muet, on n'a pas son nom.
Ouais, voilà, mais l'acteur qui le joue, j'ai pas retenu.
Ah, ça, je sais pas.
Voilà. On a une ambiance très pesante et inquiétante. C'est-à-dire que le mec, bah, il a l'attitude du mafieux. Il a l'air comme ça très sympa, mais il se renseigne. Alors comme ça, ouais, tu fais quoi? Tu bosses ici? T'as une femme? Ouais, et des enfants? Elle est jolie, ta femme, ouais. Et t'as des mains de charpentier, regardez-moi ces belles mains, les mecs. Genre, c'est pas des menaces ouvertes, mais il pourrait te péter les mains comme ça pour que t'arrêtes de bosser, il pourrait menacer ta femme et tes enfants. Enfin, tu sais, c'est les méthodes de mafieux un peu lourdes, un peu. C'est très, très, très inquiétant. On a peur qu'il se passe un truc, on a peur que le mec puisse vriller au moindre instant, parce que c'est quand même une bande de mecs sauvages sans vraiment de manière, et on ne sait pas de quoi ces mecs-là sont capables. Il y a une tension qui est permanente.
Et c'est ce qu'il utilise justement pour faire valoir son autorité. Il utilise énormément la peur, puisque même au final, c'est quelqu'un qui, à part à de rares moments, ne sort quasiment jamais son arme pour menacer. On sent que c'est un gars qui va sortir son flingue à n'importe quel moment et nous éclater si on le regarde de travers, donc il n'a pas besoin de le faire. Il a cette espèce d'assise sur les gens. On voit d'ailleurs le rapport qu'il a, bah, comme je disais, avec le taulier précédent du saloon, où il lui dit juste « je rachète ton droit et tu restes barman ». En gros, il ne sera plus jamais une thune, le gars, mais le gars, il est là en mode bah, « si je suis de ce côté-là, j'ai la protection, donc j'accepte ». Et du coup, c'est son petit toutou. Et vraiment, le mec, il arrive, il le menace même pas, quoi. Il lui fait juste « ça se passe comme ça ». Et le gars est tellement menaçant dans le regard, il est tellement… Enfin voilà, il impose énormément de choses que bah, tu acceptes en fait, parce que tu te dis « j'ai pas le choix ». Et même… Patrick Tate va accepter énormément de compromis, il va accepter énormément de morts auxquelles il va devoir assister, dont des choses très sales et très moralement discutables. Mais à chaque fois, son discours sera juste « on ne m'a pas laissé le choix ». Alors qu'en réalité, il l'a quand même sans vraiment en avoir conscience. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, lui, il se dit « de toute manière, c'est comme ça, si je veux rester en vie, j'accepte tout ce qu'on me demande ».
Et même, il est complice du système parce qu'il fait partie du système. Lui-même, il est menuisier et croque-mort, menuisier et charpentier.
Et donc c'est lui qui fait les potences quand il y a des pendaisons.
Voilà, c'est ça. Et à un moment, il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a, entre guillemets, une innocente. Il va y avoir une pendaison qui va poser problème et qui va poser un cas de conscience au village. Et lui, en tant que charpentier, bah, c'est à lui de la construire. Et ça va poser débat. Est-ce que justement il va suivre le système, il va continuer à bosser, mais en faisant ça, il est complice de tout ce qui se passe.
En fait, on est face au point de non-retour. En fait, on sait à tout... Tout le film va se poser la question du quelle va être la limite à dépasser pour que justement cet homme-là qu'on suit du coup depuis le début va craquer et dire ça suffit. Ce qui est fort dans l'ambiance qui est créée, c'est qu'il n'y a aucun moment où on peut vraiment le condamner. Je veux dire, il y aura toujours un kéké pour dire « Ah ben moi j'aurais fait ça, machin ». Mais en réalité, non. En réalité, je pense qu'on serait tous totalement pris aussi là-dedans à toujours se demander quand est-ce qu'on va finir par se rebeller contre ça. Et au final, même par exemple sa femme, qui est la première à lui dire « il faut soit partir, soit faire quelque chose », quand il y a par exemple, parce qu'elle est là, elle parle de sa morale chrétienne et lui il lui dit oui mais en même temps tous les gens de ton village ont assisté à ça et les fameux chrétiens que tu défends tant, personne s'est levé, personne n'a rien fait. Quand on voit la scène de l'impendaison, en effet, il y a le prêtre qui arrive et qui gueule un coup, mais tout le monde est là, tout le monde regarde passivement ce qui se passe, qu'ils approuvent ou pas, on n'en sait rien, ils ont le regard livide, et sa femme aussi. Donc il y a ce côté, en effet, quand ils se retrouvent face au fait, tout le monde a conscience que c'est très difficile de faire quelque chose. C'est assez intéressant d'avoir travaillé ce côté-là.
Et aussi, il y a un point de vue qui m'intéresse moi dans ce western, c'est que on disait putain c'est une chiffre molle, Clint Eastwood il se serait pas laissé faire. En effet, c'est un western qu'on voit du côté du villageois lambda. Hein? Bon alors lui il a une place un peu privilégiée parce qu'il va être au premier rang de par son métier, mais d'habitude dans un western on voit John Wayne, on est avec Clint Eastwood, on est soit le hors-la-loi soit le shérif, on est sur les hommes d'action, et là on est sur le mec à côté, le mec qui regarde, c'est celui qui ose pas prendre un flingue,
celui qu'on voit dans beaucoup de westerns et qu'on comprend en plus, celui où on se dit lui c'est pas son rôle parce que lui c'est pas le marshal, c'est pas le shérif, c'est pas le hors-la-loi, c'est pas le chasseur de primes,
il a sa femme, ses enfants, il peut pas se mouiller,
voilà. Et c'est des personnages qu'on voit régulièrement dans ces films là qu'on comprend parfaitement, et même quand eux prennent des décisions je me mouille pas, on l'accepte. Et là c'est vrai que voir ça de son point de vue à lui, forcément ça crée un décalage, puisque on voit un héros, donc on se dit ça va être le grand héros sans peur, et au contraire c'est ça qui est intéressant justement, c'est de voir à quel point déjà un citoyen lambda peut aussi finalement faire des actions s'il décide de se défendre, mais aussi de comprendre que t'es totalement impuissant face à des éléments qui te dépassent, et c'est vrai que cette ambiance du coup qui est très lourde et très lente va jouer énormément de ça, et c'est ce qui fait la force énorme de ce western.
Donc il y a cette force-là, il y a aussi une force symbolique également qui est, on va dire, plus sur des symboles sur l'Amérique qui sont un peu lourds, puisqu'il y a un drapeau américain qui est quand même accolé sur le saloon. Bon, il y a une symbolique là-dessus, il y a le révérend, la force de la religion, l'opposition entre la foi et la loi qui est présente. On va pas rentrer dans les détails, mais il y aurait peut-être une réflexion à se poser là-dessus. Petit point technique aussi, c'est quand même un film qui est très sombre. Alors c'est de fait, de manière naturelle, il y a un jeu sur la lumière, et c'est vrai que les passages de nuit sont souvent avec les hors-la-loi, donc il fait très sombre, donc il y a cette symbolique-là qui est très forte, mais aussi c'est parce que c'est éclairé à la torche, et on y voit souvent que dalle, quoi.
Ouais, mais alors moi ça m'a pas dérangé pour le coup. Autant justement t'as des sombres où tu te dis c'est sous-exposé parce que les gens qui ont fait la lumière ont mal fait leur boulot. Mais là ça donne une espèce de graphisme et d'esthétique qui va totalement dans ce sens-là. Donc ça m'a pas dérangé voir un western sombre justement. Bon, tu sais que c'est tourné en numérique et tu sais que c'est des techniques de cinéma qui sont assez modernes. Mais avoir justement cette espèce d'impression obscurantiste qui te fait penser à un ancien temps, c'est plutôt très réussi, je trouve.
Oui, voilà, c'est très sombre. Quand il fait nuit, voilà, les bases œuvres sont faites dans le noir.
Mais c'est pas du mauvais sombre où tu te dis juste, qui c'est qui a cadré ça, quoi. On n'est pas devant Star Trek Beyond.
Oui, alors je dis on n'y voit rien, c'est parce qu'on voit juste la lueur du visage, mais on reconnaît le visage, on reconnaît les personnages. On n'est pas comme dans Solo, par exemple, voilà, où on ne voit absolument rien, et c'est pas la faute de l'écran mal réglé.
On n'est pas comme dans. Tiens, en plus, c'est marrant parce qu'on est dans le même épisode. On n'est pas comme dans le troisième épisode de la dernière saison de Game of Thrones, ce que j'ai vu, du coup, ce matin, et où tu vois absolument rien, ou même mon coloc m'a envoyé un message en mode ferme les volets, sur cet épisode.
C'est ça. Le coup de l'écran mal réglé, c'est honteux.
Quand tu sais faire ton métier, tu sais faire une lumière, même quand tu fais du sombre. C'est ça toute l'astuce.
Il n'y a pas de cache-misère artificielle ici. Nous levons notre chapeau à Never Grow Old.
Ce qui est fort, c'est que moi, je pense à Emil Hirsch, du coup, qui pour moi est un argument pour aller voir un film, parce que c'est un gars qui est très rare. C'est un gars qui aurait pu, je pense, suite à Into the Wild, avoir une énorme carrière à coup de gros blockbusters et compagnie. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il choisit un film, même quand c'est des fois des films un peu plus popcorn, il les choisit très bien. Là, je peux en citer que 5, je pense, dans lequel je l'ai vu. Donc c'est Into the Wild, Speed Racer. Je l'ai vu dans Killer Joe de Friedkin, dans Freaks, du coup, et dans celui-là. Et à chaque fois, toujours des propositions de cinéma intéressantes, ça marche pas, mais c'est toujours des films ambitieux qui veulent faire quelque chose et qui le font bien. Et ça fait plaisir. Enfin, je veux dire, pour moi, ce mec-là est vraiment un argument pour aller voir un film, parce que j'ai l'impression qu'il choisit tout le temps ses rôles sur le volet, quoi. Et je suis content de ne le voir que très peu pour ça. Voilà. C'est en grande partie pour ça que je suis venu et j'ai pas été déçu.
Yeah. La semaine se termine, seulement 3 films, mais en même temps, c'est vrai que la semaine a été plutôt courte, aussi bien en termes de temps qu'en termes de sortie. Des films un peu moins exigeants, j'ai envie de dire, sauf peut-être Never Grow Old encore. Néanmoins, de la qualité et pour tous les goûts. Un menu varié, équilibré. Non, pas équilibré, non, parce qu'à force de bouffer des pop-corns, ça sera pas équilibré.
Surtout que tout était vraiment très gras, hein, dans l'exagération, la plupart du temps, donc l'équilibre... T'avais pas l'impression de manger sain dans les deux premiers films.
Ouais, mais Never Grow Old nous a permis de digérer un peu mieux ce repas un peu lourd.
Ça fait super plaisir d'avoir eu ce film en fin de semaine.
Exactement. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans ce menu. On profite que la semaine est un peu courte pour un petit message sur le podcast aussi, pour vous remercier aussi, remercier les auditeurs, parce qu'on a augmenté notre audience ces derniers temps. Vous êtes plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait très plaisir, donc ça nous encourage aussi à continuer. Là, je me suis aperçu, là, avant de venir enregistrer, qu'on était dans les podcasts mis en avant sur iTunes. Alors, c'est dans la section critique, hein, c'est depuis qu'ils ont refait les classements, c'est plus spécialisé, donc on est plus facilement visible. Donc ça, c'est vachement bien. Ça me permet aussi de vous rappeler que si vous voulez nous soutenir, eh bien, en fait, les étoiles, les commentaires sur les applications de podcast, sur les iTunes et compagnie, sur les Deezer ou autres, je ne sais pas si ça marche sur Deezer aussi, je crois que oui, ou sur Spotify ou je ne sais quoi. En fait, oui, quand vous mettez des étoiles, quand vous mettez des commentaires, en fait, ça nous aide. Ça ne coûte rien en plus, c'est juste 30 secondes. Quand vous avez écouté l'épisode, vous faites juste glisser, vous mettez une petite note, un petit commentaire, et en fait, ça nous aide et ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui pourraient l'apprécier aussi. Et pareil, sur les réseaux sociaux aussi, le fait de partager l'émission, ça nous aide énormément. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous remercier. On voulait remercier aussi ceux qui partagent, ceux qui parlent de nous sur les réseaux sociaux. Ça nous fait très plaisir aussi. Thierry, toi qui es très actif sur Twitter, toi qui vois passer beaucoup de monde, toi qui tweet énormément, tu approches des 1000 tweets d'ailleurs. Voilà.
1000 tweets, je suis pas sûr que c'est si énorme que ça. Ouais, non, je vais citer des petites personnes par-ci par-là, qu'on voit souvent, que ce soit dans les commentaires, dans des petits likes, surtout c'est pas forcément même que des gens qui écoutent, mais en tout cas des gens qui nous font exister et qui ça donne envie de répondre, donc autant les citer. Je pense à Clégo, qui nous cite énormément, qui nous recommande tout le temps. Dire à chaque fois que quelqu'un demande des podcasts, une liste énorme et on est dedans et ça fait super plaisir. Je pense à Hakim de Roden Story qui a fait partie de nos tout premiers auditeurs. C'était le premier à nous faire constater un problème, d'ailleurs je me souviens, sur une de ses écoutes, donc c'est un auditeur assidu. Je pense à Jude Melon qui fait un procédé critique sur YouTube et qui était déjà venu avec nous sur le podcast Mauvaise Herbe. Je pense à Herculea avec qui on a fait un featuring il n'y a pas longtemps, ça devrait sortir d'ici quelques semaines. Je pense à Sophie, des dés ne sont pas jetés. Je pense à Hervé de Stéréolab qui fait Travail Soigné, qui était venu avec nous pour Le Chant du Loup. Je pense à Fanny de Passion Médiéviste, la big boss du podcast français, qui était venue avec nous pour Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon.
Ouais, une des premières à nous recommander aussi.
Une des premières à nous recommander. Je pense à Inès, Inouille Doudouille, de son petit pseudonyme, qui est venu avec nous sur Give Me Liberty et qui visiblement va revenir nous voir régulièrement. Je pense à Bigaston, je pense à Liam de Bruel qui nous cite régulièrement. Je pense à Nightmare Chronique Ciné et je pense à Scarfred. Voilà, il y a évidemment d'autres personnes, on peut pas citer tout le monde, mais c'est des gens que je vois régulièrement apparaître dans les notifications, donc ça fait plaisir. On vous aime tous.
De gros bisous, 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 bisous. C'était Certains les Machos. Encore merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.
Alors, on sait que la plupart d'entre vous viennent aussi uniquement pour les photos d'Octave. Sachez qu'on est quand même très content si vous faites ça et qu'il vous envoie tout son amour, évidemment.
Voilà, il fait un bisou. Bon, vous l'entendez pas parce que c'est une peluche, mais l'intention y est, vraiment. Non, on ne s'amusera pas à faire la fausse voix d'Octave, ça ne sert à rien. Le format est tout récent, ça fait moins d'un mois qu'on est passé en version longue. Donc, donnez-nous vos retours, faites-en part, ça nous intéresse énormément. Ça nous apporte de savoir si vous appréciez ou pas ce nouveau format. En attendant, on se retrouve le week-end prochain pour de nouveaux films. J'ai entendu dire qu'il y aurait un petit Tarantino la semaine prochaine.
Semblerait, ouais, mais bon, surtout il y a Dora, et ça, faut pas qu'on le rate, quoi.
Une piste à explorer. À la semaine prochaine, donc, pour ce programme chargé s'il en est. On vous fait de très très gros bisous et on vous attend sur les réseaux sociaux. Clac Podcast, CLAAC. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
dans les trucs nazes, en matière de scénario super mal écrit, ils vont prendre des cours de surf, mais ça se passe sur la Côte d'Azur en Méditerranée.
Il y a un moment où ils en parlent. Il y a un moment où ils disent vraiment, mais il y a des vagues, et l'autre qui fait, mais il y a le Mistral. Et c'est vrai qu'après, ils repartent du principe qu'ils vont faire de la vague. Je veux dire, c'est...
Apparition de Carl, c'était pas une blague qui était dans Brise de Nice.
Si.
Mauvais exemple.
Ouais, du coup, on voit trois mecs qui font du... on voit deux mecs qui font du paddle dans le fond, du coup, mais... C'était naze.